Shalom et bonjour tout le monde. Nous continuons notre pénétrante étude du livre de Bereshit au chapitre Yud Aleph au verset He. Et vous vous rappelez que la civilisation de Babel avait pour projet de créer une civilisation, une société unique, uniforme. Dans un monde où la société est uniforme, il n'y a pas de place aux différences. Et en fait, bien que c'est fait pour amener la paix, ça entraîne finalement le mépris de la vie individuelle, de la vie humaine. Comme le raconte si bien le Midrash à propos Midrash Pirkei des Rabbi Eliezer, qui dit que lorsqu'un homme tombait de la tour et s'écrabouillait, personne n'y faisait attention, tandis que lorsqu'une brique tombait, tout le monde pleurait et disait « Quand est-ce que viendra la prochaine à sa place ?» Ça veut donc dire que puisque tout le monde, c'est la même chose, les hommes ne sont finalement que des des fabricants de briques. Et donc, s'il y en a un qui manque, l'autre le remplace. Ce qui fait, en fait, que l'homme n'a pas de sens. Et donc, pour régler ce problème, il fallait créer à nouveau la diversité. Pour créer la diversité, il faut faire la discorde. Comment se fait la discorde? Eh bien, la discorde se fait par le biais d'une révélation. Au chapitre Yud Aleph, au verset He, vous avez les très beaux mots « Vayered Hashem ». Vayered Hashem, traduction littérale, et Dieu descendit. L'expression Vayered Hashem apparaît plusieurs fois dans la Torah, à chaque fois pour désigner une révélation. Vayered Hashem al Har Sinai, Dieu descendit sur le mont Sinai. Vayered Hashem be'anan, Dieu descendit dans la nuée. C'est dit plusieurs fois dans la Torah. Donc, Vayered Hashem désigne une révélation. Maintenant, dans l'imagerie populaire, quand on se représente une révélation de Dieu, alors on s'imagine quelque chose comme une irruption volcanique multipliée par 100 ou par 1000, n'est-ce pas? Un volcan qui éclate, et puis alors, waouh, c'est extraordinaire. Bon, quand on est devant un volcan, on se sent tout petit. En fait, l'individualité est écrasée par la grandeur du phénomène. Ça c'est l'image habituelle que l'on a de la révélation de Dieu. Mais les Chachamim ont compris exactement le contraire. À propos d'un verset dans Tehilim, « Kol Hashem Bakoach » « La voix de Dieu est dans la force. »« Kol Hashem Bakoach » Le Midrash nous dit « Lefi Kocho Shel Kol Echad Ve'Echad » « Selon la force de chacun. » C'est-à-dire, quand Dieu se manifeste avec force, ça veut dire sans force, en fonction du pouvoir de réception de chacun. Ça veut donc dire que lorsque je rencontre la voix de celui qui a voulu que j'existe, c'est-à-dire la voix du Créateur, n'est-ce pas? Il a voulu que j'existe, non? Le Créateur. Il a voulu que j'existe moi en tant que ce que je suis moi, différent de l'autre. Donc, cette rencontre renforce puissamment le sentiment de mon exclusivité. Je me sens extrêmement particulier et extrêmement important quand Dieu se révèle à moi. Et alors on parle pas ici de l'Ashgaha, on parle ici de la révélation. Quand Dieu se révèle à moi, je rencontre directement celui qui a voulu mon existence. Et donc à partir de ce moment-là, très rapidement, j'en viens à exclure l'autre. C'est-à-dire la révélation n'est pas un facteur d'unité, mais bien au contraire un facteur de discorde, de désunion. D'accord? Maintenant, ce que je voulais dire pour la Ashgaha Pratit, oui, il y a aussi un peu ça dans la Ashgaha Pratit, le fait qu'il y ait une Ashgaha, une providence particulière sur moi, ça me donne un sentiment d'importance. D'accord? C'est-à-dire, quand on se méprise soi-même, quand on a une mauvaise idée de soi, en fait, c'est un blasphème, parce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, tu as fait une erreur de me créer. D'accord? Alors qu'il a voulu que je sois.
Quand vous dites que la révélation, elle se fait au niveau où chacun peut la percevoir, par exemple, lors de Matan Torah, on dit qu'il y a un Midrash qui dit qu'ils sont morts, et qu'ils n'ont pas voulu que Hachem leur parle directement, parce que c'était trop pour eux. Alors comment est-ce qu'on explique qu'ils n'ont pas...
Ah, ça contredit ça. Ça contredit. Le Midrash, c'est un autre aspect de la chose. D'accord? Un autre aspect de la chose. Donc, il y a... il y a une très belle phrase qu'on dit le matin. Modéani. Modéani, ça veut dire je suis reconnaissant. On peut dire qu'une certaine manière, ce que cette phrase nous apprend, c'est à reconnaître que c'est bien que l'on soit soi. Je suis content d'être moi. Modé Annie. On pourrait dire, mais pourquoi je suis content d'être moi? Parce que je sais qu'on a voulu que je sois. Quelqu'un a voulu que j'existe. Donc, il y a une légitimité à mon moi. On pourrait dire donc, modé, donc Annie. Contrairement, par exemple, il y a une phrase inventée par un Français, en latin, cogito, ergo sum. Je pense, donc je suis. Vous voyez comment, où est le centre de la conscience de Descartes? Il dit, c'est parce que je pense que je suis. Tout est concentré autour de sa pensée. La conscience de son moi est à l'origine de tout. C'est une forme, dans la morale, ça s'appelle une forme d'orgueil. D'ailleurs, il y a un problème logique dans cette phrase. Comment est-ce qu'il peut dire « je pense » alors qu'il n'a pas encore prouvé qu'il a le droit de dire « je » ? N'est-ce pas ? « Je pense », donc « je suis ». Évidemment, si l'on prend le « je » comme une donnée, alors c'est évident qu'on va y arriver, en conclusion. Mais on ne peut pas prendre la conclusion comme point de départ. Donc il y a un problème logique dans la phrase de Descartes « je pense, donc je suis ». Mais dans la prière, en fait, le schéma est inversé. Quelqu'un a voulu que je suis, donc je suis. Modé, Annie. Mais si c'est comme ça, c'est alors que je suis profondément et extrêmement différent de l'autre. Et donc, je ne vais pas m'entendre avec lui. Donc, comprenez ce qui s'est passé lors de la tour de Babel. Ce qui a fait qu'il y a eu la discorde, c'est la révélation. Vayere d'Hachem. Et Dieu descendit. Alors, il y a ici une allusion très forte de la Torah au fait qu'il y a eu, dans les temps très anciens de l'histoire, il y a eu une révélation de Dieu aux hommes. Et que cette révélation est antérieure à celle du Sinaï. Avant, antérieure, oui.
Mais depuis
combien de temps antérieure? Eh bien, la tour de Babel. C'est des questions. Enfin, c'est comme ça que c'est présenté par la Torah. Maintenant, est-ce que la Torah donne ici une chronologie précise? C'est difficile à savoir. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que la révélation du Sinaï n'était pas la première. Ça veut dire que les hommes, au début de leur histoire, ont connu un moment de révélation. Ce qui fait que chaque nation a pu, au début de son histoire, avoir la clé du sens de son histoire, de ce qu'elle va faire dans l'histoire. Mais ça a été oublié, ça a été estompé. Il en est resté une trace dans les mythologies. Dans toutes les mythologies anciennes, on parle d'un temps où les dieux étaient sur la terre. Vous connaissez ces idées-là, tu vois ? Il fut un temps où les dieux étaient parmi les hommes. C'est une manière mythologique de dire qu'il y a eu une révélation. D'accord ? Il en est resté une trace, un souvenir. D'accord ? Et la révélation du Sinaï, en fait, ne vient que rafraîchir la mémoire. Vayered Hashem, Lirot et Taïr, Veta Migdal, Asher Banu Bene Adam, et Dieu descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient construit les fils de l'homme. Vayomer Hashem, Hen Am Echad Vesafa Achad Lechulam, et Dieu dit, voici qu'ils sont un seul peuple, une seule langue pour tous. Veze achilam la asot, ils n'ont fait que commencer à faire. Ve'ata lo ibatzer mem kol asher yazmu la asot, et ainsi rien ne les empêchera de faire ce qu'ils ont entrepris. Hava nerda, allons, descendons. Remarquez l'emploi du mot hava. Le mot hava a été employé par les constructeurs de la tour. On avait expliqué ça que c'était un terme totalitaire. On voit qu'en réaction à l'emploi de ce mot, Dieu emploie également ce mot. C'est, il réagit en fonction de l'homme. Hein? Alors, je ne sais pas. Il dit allons. Alors, qui c'est Nerda? Qui c'est le pluriel? Regardez ce que dit Rashi. Bevet dino nimlar. Manvanuto yetera. Il a pris conseil de son tribunal par sa grande modestie. Merveilleux, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous apprend les bonnes manières. Avanerda, Venavlacham, Sefatam, et mélangeons leur langage, Asher Loishmiou, Sefatrehu, pour qu'ils n'entendent pas chacun la lèvre de son prochain, Vayafetz, Hachem otam misham al penekolares, verdelu ivnotahir. Dieu les dispersa de là-bas, sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de construire la ville. Alken kara shema Bavel. C'est bien pour cela qu'on l'appelle Bavel. Bavel, ça veut dire quoi?
Bavel?
Pas du tout.
Non.
Bavel, c'est le nom de la ville en acadien. La langue qu'on parlait à Babylone, c'était l'acadien. En acadien, oui, acadien. C'est la langue des Babyloniens, hein, la ville de Akkad. Et en acadien, le mot Babel veut dire porte des dieux. Bab ilou.
Ah, ok.
Bab, comme dire en arabe, bab, ça veut dire la porte, n'est-ce pas? En araméen, bava, la porte. Donc bab el, ça veut dire la porte de Dieu ou la porte des dieux. Mais la Torah fait un midrash. C'est une dérision de la Torah sur le nom Bavel. Sachez que très souvent, quand la Torah donne l'étymologie d'un nom, c'est pas que c'est la véritable raison du nom. C'est un midrash accolé sur le nom originel. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle Bavel. Kisham bala l'Hashem svatakol haaretz, parce que là-bas Dieu a mélangé le langage de toute la terre. Umisham efitzam al pene kol haaretz, c'est de là il les a dispersés sur la face de toute la terre. Maintenant, c'est très joli ce qu'on vient de lire, mais c'est très embêtant. Parce que si l'uniformité a été évitée, qu'est-ce que ça va entraîner maintenant? La discorde. S'il y a la discorde, ça va entraîner la guerre. N'est-ce pas? On avait parlé de ça, n'est-ce pas? Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la guerre? Il faut trouver une troisième solution. C'est-à-dire, ni uniformité, ni dispersion. Il faut pour cela l'unité. Et donc, il faut un facteur d'unité entre les diversités humaines. Pour cela, il faut créer une 71e nation. On avait parlé de tout ça, n'est-ce pas, je crois? Non, on n'avait pas parlé de la différence entre Lachon et tout le reste. On s'était arrêté là-bas. Bon. Alors, essayons de comprendre de quoi il s'agit. Est-ce qu'on avait parlé de la différence entre Mishpacha et Goy? Non, pas du tout. Bon, alors, il faut tout expliquer maintenant. Regardez maintenant un peu en arrière, au chapitre Yud, verset Lamed Aleph. C'est-à-dire deux versets avant notre chapitre. Chapitre Yud, au verset Lamed Aleph. Chapitre Yud, au verset Lamed Aleph. Elé Bene Shem. Ceux-ci sont les fils de Shem. C'est-à-dire, il y a toute une liste de nations mentionnées dans les versets auparavant. Et la Torah nous dit, tout ce qu'on vient de lire, ce sont des fils de Shem. Les Mishpechotam, l'Ilshonotam, Be'artzotam, les Goyehem. Selon leur famille et leur langage, dans leur pays, selon leur nation. Plus lourd que ça, tu meurs. Chapitre Yud, au verset Lamed Aleph. Voilà. Chapitre Yud, verset Lamed Aleph. Je reprends le verset. Elé Beneshem, voici les fils de Shem. Les Mishpechotam, l'Ilshonotam, selon leur famille et leur langage. Be'artzotam, les Goyehem, dans leur pays, selon leur nation. Plus lourd que ça, tu meurs. Alors, essayons de comprendre de quoi il est question ici. Tout d'abord, les groupes humains sont appelés au début Mishpechotam, leur famille. N'est-ce pas? À la fin du verset, ils ont un autre nom, ils s'appellent Goyim, des nations. Quelle est la différence entre une famille et une nation? La différence est très simple. La relation normale entre des familles, c'est la paix. Il y a des relations interculturelles, on se marie, on fait un pique-nique ensemble, on s'invite le Shabbat. Entre familles, tout va bien. Parfois, il y a la guerre entre les familles, mais c'est l'exception. La relation normale entre des nations, c'est quoi? La guerre. Quand il y a la paix, c'est l'exception. À tel point que le prophète, Yeshayahu, nous dit, comme quelque chose d'extraordinaire, viendra un temps où une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation. Loïsa goy el goy chayrev. C'est la fin des temps, c'est l'idéal de la fin de l'histoire. quand une nation ne fera plus la guerre à une autre nation. Ce qui veut dire que les nations, naturellement, se font la guerre. Pour raison très simple, c'est que l'idée de nation, c'est une entité politique, implique l'idée de l'étranger. L'étranger est un peu comme exclu de l'humanité. C'est-à-dire la nation est une micro-humanité qui exclut celui qui n'en fait pas partie. Et donc l'étranger est une menace. C'est un ennemi potentiel. Donc c'est quand les groupes humains sont devenus des goyim, c'est-à-dire des nations, c'est là que la guerre devient inévitable. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un groupe se définit comme famille ou comme nation? Alors la Torah nous dit, je reprends ici le verset, « Et les Bénéchèves, voici les fils de Shem, les Mishpechotam, l'Ilshonotam, ils étaient selon leur famille, selon leur langage. » C'est-à-dire ce sont les langages qui vont créer les familles. C'est quoi un langage? Ça vient de, le mot « lashon » veut dire quoi en hébreu? La langue. La langue, c'est contrairement à la lèvre. La lèvre se dit « safa ». N'est-ce pas? « Safa ». Les deux mots sont employés aujourd'hui en hébreu pour dire une langue. Mais ce n'est pas tout la même chose. La lèvre, c'est extérieur, c'est un moyen de communication. La langue, c'est intérieur. C'est ce qu'on appelle « lashon », qui vient d'ailleurs du mot « la louche », qui veut dire « pétrir ». C'est ce que l'on retourne 7 fois dans sa bouche avant de parler. C'est la vie intérieure, ce qu'on appelle la culture. C'est-à-dire que les groupes humains sont des entités culturelles. Entre cultures, il y a ce qu'on appelle des échanges interculturels. Très sympathique. Alors on fait un musée, exposition japonaise à Madrid, etc. Et puis alors les Espagnols vont aller au Japon faire un peu de corrida, etc. Très sympa, voilà. Et puis il vient un temps où ce qui va définir, ce n'est plus le lashon, c'est be'artzotam, dans leur pays. Quand la définition devient territoriale, c'est là que les groupes deviennent des goyim. Vous voyez qu'il y a ici, en filigrane, une critique de la Torah contre le nationalisme. N'est-ce pas? Vous avez compris? On est passé de Mishpachot à Goyim quand on est passé de Lachon à Aratzot. C'est-à-dire, on est traduit en français, on est passé de famille à nation lorsque la définition est passée de culture à territoire. Il y a par exemple une idée née en France qu'on appelle les droits de l'homme. C'est quoi la suite? Et du citoyen. J'ai pas très bien compris. Pourquoi est-ce que s'il y a des droits de l'homme, il faut les droits du citoyen? Ça veut dire que l'intention du départ, c'est les droits de l'homme. Mais dans la réalité, c'est les droits du citoyen.
C'est par rapport à sa nation.
Exactement. Ça veut dire que le citoyen exclut celui qui n'est pas citoyen. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un passage de Mishpacha à Goy. N'est-ce pas? Alors, comment régler le problème? On avait dit qu'il fallait régler le problème en créant une 71e nation qui va régler le problème. Tiens donc, essayons de voir de quoi il s'agit. Regardez au chapitre Yudbet. Au chapitre Yudbet, au verset Bet. Chapitre Yudbet, verset Bet. 12.2. Chapitre Yudbet, au verset Bet. Vous n'avez pas trouvé encore?
Si, c'est
ah bon, d'accord, très bien. Ve'esra le goy gadol, je ferai de toi une grande nation. Encore un? C'est incroyable. Vavarecha vagadla shmecha ve'ebracha, je te bénirai, j'agrandirai ton renom, tu seras bénédiction. Vavarecha mevarecha, je bénirai ceux qui te bénissent. Ukalelcha or, je maudirai ceux qui te méprisent. Ve'nivrechu becha, et par toi seront bénis. Kol Mishperot à Adama, toutes les nations, non, toutes les familles de la terre. Intéressant. C'est-à-dire, Dieu dit à Abraham de fonder une nation, d'accord, encore une de plus, mais c'est une nation qui, contrairement aux autres nations qui viennent faire la guerre aux autres nations, a pour but de transformer les nations en familles.
C'est la
fin. Évidemment, c'est la Torah. C'est-à-dire que la Torah nous dit que la vocation d'Israël est d'aider les nations de la terre à redevenir des familles. Et donc, on peut dire que le nationalisme d'Israël est le seul légitime. Parce que tous les autres nationalismes sont des égoïsmes. Là, c'est un nationalisme à portée universelle. Donc, il est cachère. Vous avez compris la différence ? Je reprends. Si les nationalismes entraînent la guerre, parce que ce sont des goyims, mais que l'identité nationale d'Israël en tant que goy veut dire une nation, si cette identité nationale d'Israël a pour but de ramener la fraternité parmi les hommes, de les retransformer en mishpachot, c'est donc un nationalisme kasher. C'est le seul kasher au monde, parce qu'il a une vocation justement universelle, et non pas impérialiste. Vous avez compris ? Bon, c'est génial. Ouais. Mais c'est pas de moi, c'est de la Torah. Bon, maintenant.
Ça veut dire que toute dimension d'orgueil propre au peuple est complètement exclue.
Eh bien, évidemment, il est là pour servir les autres. Maintenant, on peut dire, c'est à l'orgueil d'être là pour servir les autres. Comme disait Emmanuel Lévinas, tout grand peuple a le devoir de se penser le peuple élu. D'accord ? Maintenant, je rajouterai une chose importante. Le seul peuple qui ne veut pas être le peuple élu, c'est celui qu'il est. D'accord ? Les Juifs ont un problème par rapport à ce rôle. Maintenant, il y a un problème. Le fait que ce soit affirmé par la Torah, qu'est-ce qui fait que c'est vrai ? Parce qu'il peut y avoir une autre option. L'autre option est la suivante. Regardez dans le chapitre Yud, au verset Yud. Oui. Ah, non, je ne peux pas revenir parce qu'on l'a à peine effleuré. D'accord ? On en parlera quand on arrivera à Abraham. Là, on verra de quoi il s'agit. C'est quoi ce peuple élu ? En quoi est-ce qu'il est élu ? Mais regardez au chapitre Yud, verset Yud. Oui. Non, au verset Chet plutôt. Oui, verset Chet. On avait parlé de Hachour ? Non. Bon. Regardez au chapitre Yud, au verset Chet. Qu'est-ce qu'il y a ? Des chiffres ? Ah, c'est génial, bien sûr. Ça permet de s'y retrouver. Mais ça permet de s'y retrouver seulement dans ceux qui sont dans les lignes d'en haut, parce que le reste est un peu caché. C'est embêtant. Bon. Donc, je reprends ici au chapitre Yud, au verset Chet. Chapitre 10, verset 8. Verhush Yalad et Nimrod. Cush a enfanté Nimrod. Ça veut dire quoi Nimrod ? Révoltons-nous. D'accord ? C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont dit qu'il était l'inventeur de la tour de Babel. Puisque la tour de Babel est une révolte, donc celui qui la crée s'appelle Révoltons-nous. D'accord ? Verhush Yalad et Nimrod, ou Echel Yod Gibor Baaret, c'est lui qui a commencé à être un héros sur la terre, ou Aya Gibor Tzaïd Lifne Hashem. Il était un héros de chasse devant l'Éternel. Al-Kenya, c'est pour ça qu'on disait Kenimrod, tel Nimrod, Gibor Tzaïd Lifne Hashem, héros de chasse devant l'Éternel. Vatehi Reshit Mamlachto, et le début de son empire fut Babel. Donc c'est lui l'inventeur de la tour de Babel. Ve'erech ve'akad ve'chané, ainsi que Uruk, Akkad et Kalné, Beret Shinar dans le pays de Sumer. Donc tout ça on connaît. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le verset Yud Aleph. Le verset Yud Aleph est extrêmement important. Min ha'aretz ahi yatsa Ashur. De cette terre sortit Ashur. Qui est Ashur qui sort de Babel ?
De cette terre
sort quoi ? Ashur. Je lis ici le verset Yud Aleph. Vous n'avez pas le verset devant les yeux ? Pourquoi vous n'avez pas de livre ? C'est très embêtant. Un cours avec livre est compris 5 fois mieux qu'un cours sans livre. Non, mais là, ça y est, elle a trouvé. Mais c'est très important d'avoir le texte devant les yeux, ça permet de mieux suivre. Minaharetzahi yatsa Ashur. De cette terre sortit Ashur. C'est une des manières de dire le verset. Qui est Ashur ? Ashur, si on voit au verset Kafbet, c'est un peu plus loin. Béné Shem, les fils de Shem, sont Elam et Ashur. Ah, il y a un certain Ashur qui est un fils de Shem. Donc, Shem sort de Babel. Il sort de Babel. Regardez ce que dit Rashi au verset Yud Aleph. Minaaretz, que Rashi nous dit, Kevan Shera Ashur et Banav Shomim le Nimrod. Lorsque Ashur a vu que ses enfants écoutaient Nimrod, Umordin Bamakom Livnot Amigdal, se révoltant contre Dieu pour construire la tour, Yatsa Mitocham, il sortit d'entre eux. Donc Ashur est le premier à se révolter contre Nimrod. Alors c'est un type bien ce Ashur.
Hein?
Dans Rashi. Rashi, dans chapitre Yud, verset Yud Aleph. Vous avez trouvé? Chapitre Yud, n'est-ce pas? Au verset Yud Aleph. Minaaretz, Kevan Shera Ashur, lorsque Ashur a vu. N'est-ce pas, vous avez trouvé? Très bien. Il a vu que ses enfants se révoltaient contre Dieu, incités par Nimrod. Alors, il quitte Babel. Donc, on peut dire que Ashur, c'est un type bien. Il se révolte contre Nimrod. Génial. Pourquoi c'est pas lui l'ancêtre d'Israël alors? Hein? Alors que Abraham, lui, semblait être au début assez fasciné par la tour. Il était parmi les constructeurs, lui.
Passif.
Qui?
Ashur.
Pas du tout.
Il est parti, mais il a...
Qu'est-ce qu'il a fait? On va voir ce qu'il a fait. Non, on va voir. Reprenez le verset. Minaaret sa'i yatsa Ashur. De cette terre sortie Ashur. Vayiven et Ninive, il construisit Ninive. C'est-à-dire la deuxième Babylone. C'est-à-dire qu'il en était sevré de Babylone. Et donc il a pris le métro pour fonder sa deuxième ville. D'accord? Sa ville à lui. Ça veut dire qu'en fait, ce qui poussait Ashur, c'était pas. Le refus de la révolte, mais en fait très profondément il voulait être Nimrod à la place de Nimrod. Imaginez par exemple un grand vizir qui voudrait remplacer le calife et qui n'a qu'une idée, il veut être calife à la place du calife, ce qui n'est pas bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en fait maintenant le grand vizir en question va invoquer des grands principes de liberté, de justice, tout le reste. Mais en vérité, il veut son bien personnel. Il veut sa domination. Il y avait par exemple, au XXe siècle, un juif en Russie du nom de Yehuda Leib Davidovitch, qui a participé à la révolution bolchevique, et finalement est rentré au Politburo, et a pris le nom de Léon Trotsky. Oui, c'est lui. Et le Trotsky en question, après la mort de Lénine, a été en fait évacué du pouvoir, c'est Staline qui a pris la place, et alors Trotsky a pris la fuite et a déclaré en fait la guerre à l'Empire soviétique, qui à partir de ce moment-là est devenu à ses yeux quelque chose d'abominable, la plus grande entreprise de tuerie au monde, etc. Et donc, il a fait sa quatrième internationale, le trotskisme, tout le reste. Finalement, il s'est fait tuer par les agents de Staline. Mais enfin, l'idée du trotskisme, c'est ce qu'on appelle la révolution permanente, et il ne cessait d'accuser l'URSS des pires abominations. Le problème, c'est que ses élèves, à lui, ont fait bien pire que les soviétiques. Par exemple, au Cambodge, c'est des trotskistes qui ont éliminé la moitié de la population en 2 ans, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, en fait, ce qui se manifeste, c'est qu'il voulait être, lui, Staline, à la place de Staline. On peut dire que Ashur, c'est la même chose. Il voudrait bien être Nimrod, mais c'est Nimrod qui a la place. Alors, il va sortir de Babel, il va se servir, évidemment, d'un argument théologique, on se révolte contre Dieu, qu'est-ce que c'est l'histoire, mais il va construire, lui aussi, sa Babylone. N'est-ce pas? Et donc, il ne peut pas prendre la place de Nimrod. Ce n'est pas lui qui va donner naissance à Israël. C'est-à-dire qu'il y a souvent ce qu'on appelle une intention universelle qui, en fait, se révèle à un moment ou à un autre comme un impérialisme. Je sais qu'il y avait en Europe, il y a 2 siècles de ça, un peu plus de 2 siècles, il y a eu une révolution universelle. Vous avez peut-être entendu parler, qui a commencé un 14 juillet. Et dans la révolution en question se présentait comme universelle. Elle va libérer l'Europe des tyrans. Et ça a donné quoi? L'impérialisme napoléonien. C'est-à-dire, pour libérer les nations des tyrans, il faut que tout soit asservi à Napoléon Bonaparte. D'accord ? L'impérialisme français. C'est-à-dire qu'il y a une tentative, peut-être bien intentionnée au départ, de sauver le monde, mais en fait, ça sert à dominer le monde. Quelle est la théologie de Ashur ? Bon, les Ashur, en français, on dit des Assyriens. D'après les informations que nous donne l'archéologie, il se trouve que la religion des Assyriens était ainsi. Ils imaginaient, enfin, ils croyaient que le monde a été créé par un dieu unique qui s'appelle Ashur. Et que de tous les peuples de la terre, ce dieu unique a élu son peuple, Ashur, pour lui donner la domination du monde entier. Et donc le but d'Ashur, c'est de faire la conquête du monde. Alors, c'est intéressant parce que vous avez ici l'idée, déjà en filigrane du peuple élu, mais qui va servir à une finalité immorale, de dominer l'autre. Tandis que chez Abraham, c'est exactement le contraire de Ashur, il va se servir de son élection pour être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Maintenant, le problème est de savoir qui fait que Abraham va réussir et ne va pas devenir un nouvel Ashur. N'est-ce pas ? Argument qu'on retrouve chez les antisémites qui disent cette idée du peuple juif qui était un peuple élu, en fait, c'est un projet de domination universelle. Ce sont les protocoles des sages de Sion, tout le reste. D'accord ? C'est une grave erreur, évidemment, mais il faut expliquer pourquoi est-ce qu'ils se trompent. Alors, pour ce...
Il n'y a pas de culte de la personnalité chez Abraham.
C'est pas une... Quel est le problème du culte de la personnalité ? Ça n'a rien à voir.
Bah, il s'efface pour pouvoir créer une nation.
Oui, mais est-ce que la nation ne va pas devenir un culte de la nation ? N'est-ce pas ? Il y a souvent, on entend chez des goïms, une critique des tentatives universalistes du judaïsme comme étant un projet de domination universelle.
En tant que nation.
Oui, bien sûr. Par exemple, moi personnellement, je m'occupe de ce qu'on appelle le noachisme, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Alors dans les réactions violentes que je peux recevoir parfois, il y a ça, il y a cette accusation-là. Vous voulez dominer la planète et vous inventez le noachisme. D'accord ? Alors, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui fait que Abraham, lui, est fait pour réussir là où Ashur a échoué. Et c'est pour ça que nous devons apprendre quelle est l'origine de la famille d'Abraham et qu'est-ce qui a formé Abraham à sa mission. D'accord ? C'est pourquoi nous devons maintenant rentrer dans le vif du sujet et regarder au chapitre Yud Aleph. Au chapitre Yud Aleph, vous avez au verset Yud. Et les toldot Shem. Voici les engendrements de Shem. Shem ben Me'atchana velet Arpachshad. Shem, à l'âge de 100 ans, a enfanté Arpachshad, engendré Arpachshad. Verset Yud Bet. Arpachshad chai chamesh ulushim shana velet de Tchalach. Arpachshad, âgé de 35 ans, engendre Shelach. Au verset Yud Dalet. Veshelach chai shloshim shana velet de Ever. Shelach, à l'âge de 30 ans, engendre Ever. Donc Ever est un arrière-petit-fils de Shem. C'est quoi ce Ever ? Ever est l'ancêtre des fils de Ever. C'est logique, non ? Ever, c'est le père des fils de Ever. Maintenant, comment vous dites des fils de Ever ? Ça veut dire en un mot ? Des Hébreux. Des Hébreux, n'est-ce pas ? Ever, Ivri. Maintenant, regardez, gardez la page, mais consultez au chapitre Yud, au verset Kafalef. Chapitre Yud, c'est le chapitre antérieur, chapitre 10, au verset Kafalef, verset 21. Ulshem Yulad Gamu, Shem aussi eut des enfants. Avi Kolbené Aever, lui qui était le père de tous les fils de Aever. Ahi Efet Agadol, le frère de Japhet le Grand. Bon, j'ai rien compris. Comment est appelé Aever ici ? Aever a reçu un très beau nom, on l'appelle le père de tous les fils de Aever. Aever, c'était son arrière-petit-fils, d'après ce qu'on avait vu, n'est-ce pas ? Donc, il est défini comme étant l'ancêtre des descendants de son arrière-petit-fils.
On est pour lui là.
On peut faire un petit tableau ou quelque chose.
Eh bien, c'est très simple. Voilà. Vous avez Shem, qui a un fils qui s'appelle Arpachshad, qui a un fils qui s'appelle Shelah, qui a un fils qui s'appelle Ever, et Ever, il a des enfants, qu'on appelle Bénéa Ever. Alors, on nous dit, qui est Shem? Eh bien, Shem, c'est le père des fils de Ever. C'est-à-dire, il est défini comme étant l'ancêtre des descendants de son arrière-petit-fils. C'est une banalité absolument incroyable. N'est-ce pas? Bon. À moins que ça veuille dire que la famille de Ever représente de manière idéale les idéaux de Shem. C'est-à-dire, le plus sémite de tous les sémites, c'est Ever. Que veut dire Shem?
Hein? C'est le nom.
Ça veut dire un nom, et ça veut dire également en hébreu un but, une finalité, une vocation. N'est-ce pas? Par exemple, quand on fait quelque chose en faveur du ciel, les Shem Shamaï. D'accord? Donc Shem veut dire une finalité. C'est-à-dire c'est une civilisation qui voit un but dans l'histoire. Dans toutes les de toutes les familles de la civilisation de Shem, c'est la famille de Ever qui représente le mieux cet idéal. Qu'est-ce qu'il est, ce Ever en question? Alors, regardez toujours au chapitre Yud, au verset Kafhe. Chapitre Yud, verset Kafhe. Oul Ever Yulat Chenebanim. Ever eut deux enfants, eut deux fils. Shema Echad, le nom de l'un, Peleg. Pourquoi s'appelle-t-il Peleg? Ki be'amav niflega ha'aretz, parce que de son temps la terre fut divisée. Veshem achiv Yoktan, le nom de son frère était Yoktan. 95. Donc, Ever a un fils qu'il appelle Peleg, parce que du temps de Peleg la terre fut divisée. Alors ça veut dire deux choses. Tout d'abord, quelle est la préoccupation de Peleg, de Ever, pardon? Qu'est-ce qui le préoccupe? La division de la terre. N'est-ce pas? La terre est divisée, ça l'embête. Ça veut dire quoi qu'elle est divisée? On ne sait pas très bien. Comment?
Déjà, ça veut dire qu'il est prophète. Parce que si c'est
ah, ça c'est la deuxième chose. Ça veut donc dire qu'il est prophète. C'est-à-dire qu'il est à la fois prophète et il se préoccupe de l'unité des hommes. Ça vous rappelle un peuple par hasard? Ça rappelle un peu le peuple d'Israël. C'est-à-dire, il est en fait l'ancêtre de l'identité hébraïque, qui est à la fois prophète, il y a la prophétie comme étant la spécificité du peuple d'Israël, et de plus, il est préoccupé de l'unité des hommes. C'est intéressant. Maintenant, comment réaliser cet idéal de réunifier les hommes? Il peut y avoir différentes options dans la famille. On verra effectivement qu'il y a eu un débat extrêmement âpre dans la famille de Ever autour de ce problème. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, si on voit dans le chapitre Yud Aleph que nous avons quitté tout à l'heure, la suite de la lignée. Donc vous avez ici Ever qui a deux enfants. L'un qui s'appelle Peleg et l'autre qui s'appelle Yoktan. Peleg a un fils qui s'appelle Réon. Que veut dire Réon? La fraternité. Oui. Qui a un fils qui s'appelle Serug, qui a un fils qui s'appelle Nahor, et le Nahor en question a un fils qui s'appelle Terach, et Terach a trois enfants, l'un qui s'appelle Abraham, à ce moment-là de l'histoire, il s'appelle encore Abraham, Haran et Nahor. D'accord? Donc, le Ever en question est l'ancêtre d'Abraham. Donc, ce point de vue, et maintenant, tous les descendants, Yoktan a également 13 tribus qui sortent de lui. Donc, il y a ici beaucoup de monde, en fait. C'est, la Torah nous donne seulement la lignée centrale, mais il y a ici beaucoup de descendants. Comment appeler tous ces descendants-là? Ce sont des Ivrim. Ce sont des Hébreux. Donc, Abraham est le dernier des Hébreux. Ah oui, souvent on dit quelque chose d'absolument faux, qu'Abraham était le premier hébreu. C'est exactement le contraire. D'après la Torah, il est le dernier des hébreux, c'est de ce peuple antique, dont il est resté une famille, rescapée. Rescapée de quoi, on ne sait pas très bien encore. Mais Abraham est le dernier des Hébreux.
Pourquoi ?
Ben parce que cette nation-là a disparu de l'histoire. Comment est-ce qu'elle a disparu ? On va le voir. Comment ?
Mais Lavan et ses filles, c'était des descendants.
Ça, c'est après. Est-ce que ce sont des Hébreux ? Lavan était appelé dans la Torah araméen. Comme par hasard, pas hébreu. Alors, maintenant, on va rentrer dans
c'est le. Des descendants.
Oui, mais on va devoir comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il y a eu une tentation à un moment de l'histoire de cette famille de cesser l'identité hébraïque. Et puisque tout cela est clair, je peux effacer, n'est-ce pas ?
Oui. Moi, j'ai pas compris en quoi on peut les définir comme une nation et pas comme une famille.
Ah, parce que la Torah, à la fin de cette liste, nous dit que ce sont les nations de Shem. Ce sont les descendants de Shem selon leur nation. Donc, Abraham est un descendant de la famille qui est devenue une nation hébraïque. Maintenant, où est-ce que cette nation des Hébreux habitait ? C'est pas très clair, n'est-ce pas ? Où est-ce que les Hébreux pouvaient habiter ? Je vais vous donner une réponse très simple. Les Hébreux habitaient dans le pays des Hébreux. Comment vous dites en hébreu « pays des Hébreux » ? Eretz Haïvrim, le pays des Hébreux. Alors cherchons dans la Torah où apparaît ce mot. Le pays des Hébreux. C'est où ça, le pays des Hébreux ? Non. Si on a dit que ce sont les descendants de Hever. D'accord ? Hever n'est pas appelé parce qu'il est d'un autre côté. Il s'appelle Hever parce qu'il s'appelle Hever, point à la ligne. Maintenant, ses descendants sont les Ivrim, les Hébreux. Où est-ce qu'ils habitent ? Alors, ils habitent dans le pays des Hébreux. Alors, essayons de voir où c'est le pays des Hébreux, bon flanc. Regardez au chapitre même. Au verset Tetvav, ça vous demande de faire un certain effort de feuilletage. Regardez au chapitre même, au verset Tetvav. Chapitre même, c'est chapitre 40. Au verset 15. Ça va loin, ça, n'est-ce pas ? C'est le chapitre même qui est le même chapitre. C'est un jeu de mots stupide. Donc, chapitre même, verset Tetvav. Bon, alors regardons ce que dit chapitre même, chapitre 40, verset 15, Tetvav. Je sais que c'est un exercice extrêmement difficile et laborieux que je vous ai demandé là. Hein? Exactement. Regardez ce que dit la Torah. Qui gunov gunavti, car j'ai été capturé, j'ai été volé, enlevé, mais Eretz Haïvrim du pays des Hébreux. Qui c'est qui dit ça ? C'est Yosef, un dignitaire égyptien, dont il demande l'aide. Il dit, il faut que tu m'aides parce que j'ai été rapté du pays des Hébreux. Maintenant, il est évident que quand il va le parler à quelqu'un qui peut le sauver, il ne va pas parler par énigme. Il va parler dans un langage qui est supposé être compris par son interlocuteur. Ça veut donc dire que Yosef sait qu'en Égypte, on savait depuis longtemps que le pays d'où venait Yosef, c'était le pays qui avait été celui des Hébreux. De quels Hébreux parle-t-il ? Eh bien, des ancêtres de la famille. Ça veut donc dire que le pays que la Torah appelle par la suite Canaan, comme on dit en français, avait été le pays des Hébreux. Et qu'est-ce qui se passe avec la famille ? Alors regardez à nouveau au chapitre Yudalef. Je sais que c'est très difficile ce que je vous demande, mais enfin quand même. On voit par exemple au verset Kafret, Vayamot Haran al pene Terach Aviv, Haran mourut du vivant de Terach son père, Beretz Moulato dans le pays de sa naissance, Be'ur Kasdim à Ur Kasdim. C'est où Ur Kasdim ? Ur des Chaldéens. C'est pas le pays des Hébreux. Quelle que soit la localisation qu'on donne à Ur Kasdim, Ur Kasdim n'est pas le pays des Hébreux. Et on voit la famille des Hébreux, c'est la famille dont la Torah va nous parler, vivant en dehors de sa terre. Ça s'appelle comment une famille en dehors de chez soi ? Des exilés. C'est-à-dire que le récit de la Torah sur l'identité d'Israël commence par le récit d'une galoute dont on va essayer de sortir. C'est comme ça que commence l'identité d'Israël.
Hein?
Oui, on voit dans le verset Kafret du chapitre Yudalef que la famille est établie à Ur Kasdim, n'est-ce pas ? Ur Kasdim, quelle que soit la localisation qu'on en donne, n'est pas dans le pays des Hébreux. C'est le pays des Chaldéens. Et donc, qu'est-ce qu'ils font là-bas, les Hébreux, chez les Chaldéens? Ben, ils sont en exil. Comment est-ce qu'ils ont été exilés? Nous n'en savons rien. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils ne sont pas chez eux.
Ils étaient avant, ils sont sortis?
Ben, ils avaient été dans le pays des Hébreux. Et maintenant, ils ne sont plus dans le pays des Hébreux. On ne sait pas pourquoi. Ce qu'on sait, en tout cas, par l'archéologie, c'est qu'il y avait, avant Abraham, une peuplade qu'on appelait Habirou. Habirou, c'est probablement les Hébreux. Et qu'ils étaient dispersés dans tout le croissant fertile. C'est-à-dire, ils étaient localisés dans différents peuples, en communautés séparées. Et que souvent, ils avaient des postes clés. Et qu'ils faisaient du commerce. Intéressant quand même. Oui. Maintenant, ce que nous savons également des Rabirous en question, on connaît pas mal de choses. D'après le Midrash, un des chefs de la famille, Terach, avait un magasin dans lequel il vendait des idéologies. Il était fabricant d'idéologies. Et quand les goyim venaient, ils achetaient. Il dit, vous avez une idéologie pour moi? Ben voilà, je viens de la faire, je l'ai faite pour vous spécialement sur l'étagère. C'est temps et temps, et les goyim achetaient. C'est-à-dire qu'on pensait qu'un hébreu était capable de créer des dieux. Parce que les idéologies à l'époque, ça s'appelait des idoles. N'est-ce pas? C'était des dieux. Ça veut dire que depuis très longtemps, on pensait que les Hébreux étaient capables de faire des dieux. Si on pense d'un Hébreu qu'il est capable de faire des dieux, qu'est-ce qu'on pense de l'Hébreu lui-même? Que c'est un super dieu.
Ouais.
Donc vous voyez déjà l'origine, enfin d'après le Midrash, la focalisation de l'esprit des nations autour d'un Hébreu qu'on va diviniser. Intéressant, ça se voit déjà très longtemps avant. Mais en tout cas, il se passe quelque chose dans cet Our Kasdim. C'est à partir de Our Kasdim, de cette tentative de sortir de la galoute, que va s'élaborer l'identité d'Israël, à commencer par Abraham. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le détail? Ça, on a besoin de rentrer plus profondément dans les détails. Oui, vous dites?
Est-ce que vous avez déjà expliqué pourquoi le pays s'appelle Canaan?
Eh bien, il s'appelle Canaan parce que les Cananéens l'ont envahi entre-temps. Comme dit la Torah, par exemple, au chapitre Yudbet, au verset Vav, vers Kenaani, Asbaret, le Cananéen était alors sur la terre. Ça veut dire qu'il était arrivé. D'accord? Et donc, il y a ici, quand Abraham part en Eretz Israël, il revient au pays de ses ancêtres. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire que c'est le dépaysement. Au contraire, il veut se réenraciner. Mais enfin, alors ça, on va voir. J'ai compris. C'est très intéressant, mais tout ça demande d'être prouvé par les textes. Et comme nous sommes arrivés à la fin de notre émission, nous allons devoir arrêter là et reprendre la prochaine fois. Shalom à tous nos auditeurs.